Alors, Seigneur, je suis content de vous revoir. Nous sommes contents de vous revoir. Mon épouse est là aussi. Et nous sommes heureux de voir que vous êtes nombreux ce matin. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Je ne sais pas combien vous êtes d'habitude, mais merci Seigneur. Il est le puissant et le vivant qui demeure avec chacun de nous. Excusez-moi si je racle de temps en temps, mais ça, c'est un peu les ennuis de saison. Alors, nous allons lire ensemble dans Lévitique, chapitre 6 et verset 5. Lévitique, chapitre 6, versets 5 et 6. Le feu brûlera sur l'autel et il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Ça fait plaisir de voir cela, et ça fait plaisir aussi de savoir que le Seigneur a les mêmes choses pour nous de nos jours. Alléluia. Dans Luc aussi, chapitre 12, verset 35 et 37, jusqu'à 37. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Alléluia. Notre Seigneur revient bientôt aussi et c'est pour cela que nous devons avoir nos reins sains et nos lampes allumées. Nous allons voir ensemble ce matin comment dans la parole de Dieu des hommes ont su ou n'ont pas su garder le feu. Parce que tous n'ont pas su garder le feu. Autrefois, quand je n'y étais pas, bien sûr, ou non plus, mais quand il y avait le début de l'humanité, eh bien, les gens n'avaient pas des allumettes, bien sûr, mais ils allumaient le feu avec des silex, et il fallait qu'ils gardent le feu précieusement. Il ne fallait pas perdre ce feu, parce qu'il fallait sinon quand même un certain temps pour que le feu se déclenche. Et il le gardait précieusement. Est-ce que nous gardons encore le feu précieusement? Quand le Seigneur veut nous visiter, nous savons que cela nous fait du bien. C'est merveilleux de sentir la présence de Dieu, de sentir que le Seigneur veut nous bénir, nous entourer de sa vie, de sa puissance, et veut nous renouveler. Alors, essayons le plus possible de garder ce feu. Quand vous vous souvenez certainement du début de votre conversion, si vous avez accepté le Seigneur Jésus comme votre sauveur, eh bien, c'était vraiment quelque chose de merveilleux. On voulait que tous autour de nous sachent que Jésus était venu dans notre cœur, nous avait visité. Comment il nous avait visité? Ce n'était pas quelque chose que nous voulions garder plus que secret. On ne dit rien, on profite de ce moment, mais on ne dit rien. Non, on ouvrait son cœur aux autres. Et on disait aux autres, savez-vous que Jésus est le sauveur de l'humanité? Savez-vous que Jésus veut vous sauver aussi? On n'hésitait pas, on y allait, on témoignait. Et maintenant, peut-être, il faut nous pousser. Ah non, Seigneur, qu'il n'en soit pas ainsi, que nous ne soyons pas obligés d'être poussés par les autres, poussés par un vent fort que le Seigneur enverrait. Non, mais il nous faut aller. Le Seigneur nous a dit d'aller et que le Seigneur me bénisse, vous bénisse, afin que nous puissions ensemble aller témoigner de la gloire de Dieu. On regarde dans l'Ancien Testament déjà Adam et Ève. Et me dire quelle histoire, Adam et Ève, c'est vrai, ça n'a pas été facile, ni pour eux, ni pour le Seigneur. Ils ont marché avec Dieu, dans la présence de Dieu, avec le feu de Dieu, Et ils ont été bénis, vraiment bénis. Quand Adam est venu sur la terre, Dieu a dit, mais je vais lui faire une aide semblable à lui. Et voici qu'il a, prévu Ève. Et là, c'était vraiment une communion parfaite entre eux deux et avec le Seigneur. C'était quelque chose de merveilleux, le jardin d'Éden. Avec le feu de Dieu, la présence de Dieu, c'était extraordinaire. Jusqu'au jour où le serpent les a séduits. Le serpent ancien, le diable, qui est venu et puis qui leur a présenté des choses tellement bien enrobées. C'était formidable ce que disait le serpent aux yeux d'Ève et d'Adam, aux deux. Et voilà qu'ils sont tombés dans le piège que leur présentait Satan. Alors le feu de l'amour pour Dieu, c'est pas seulement quelque peu éteint, mais il s'est réellement éteint. Il n'y avait plus de communion entre Dieu et ses enfants qu'il avait créés. Cette communion avait été rompue par le péché. Et de nos jours, c'est pareil. Le péché vient et cherche à s'infiltrer, cherche à nous détruire. Et la communion est en train peut-être de s'en aller. Quand l'on vit dans le péché, eh bien, il n'est pas possible de pouvoir être en même temps en communion avec le Seigneur. Oh, ça peut durer un certain temps, c'est vrai. On a connu même des serviteurs de Dieu qui ont marché un peu à cloche-pied, je sais pas comment on dit. Ils ont parfois aimé le Seigneur, servi le Seigneur, apporté des choses merveilleuses au milieu du peuple de Dieu. Et puis tout à coup, il s'est infiltré l'ennemi et les choses n'allaient pas si bien. Ah, je me souviens d'un serviteur de Dieu qui, un chrétien, demandait, il dit, mais quand tu vas... c'était un jeune qui commençait dans le ministère. Quand tu vas pour prêcher, pour apporter la parole de Dieu à des foules, qu'est-ce que tu fais si tu n'as pas le temps de prier? Eh bien, si je n'ai pas le temps de prier, j'y vais quand même. Mais il fallait qu'il ait le temps de prier. Il fallait qu'il prépare ce temps avec Dieu. Il ne fallait pas qu'il reste dans un coin sans se présenter à Dieu, sans demander au Seigneur son aide. Et voilà que, eh bien, ce serviteur de Dieu, il est tombé parce que il ne cherchait plus la face de Dieu et la grâce l'avait un peu abandonné, bien sûr, parce que Dieu n'abandonne pas. C'est vrai, Dieu veut relever celui qui est dans le problème. Mais, malgré tout, s'il persiste, Dieu ne peut pas être invité à sa table. Comment briller pour Dieu après une telle chute, après la chute d'Adam et Ève? Ce n'était plus possible. Le Seigneur a fait grâce, c'est vrai, mais c'était quand même pas tout à fait comme le jardin d'Éden autrefois. Nous nous souvenons aussi d'autrefois, du jardin d'Éden, quand le Seigneur venait avec nous et travaillait au milieu de nous. Alors, eh bien, retrouvons ces moments. C'est possible pour l'enfant de Dieu. Ce n'est pas comme pour Adam et Ève, où ils ont dû avoir de sérieux problèmes. Abel, leur premier fils, était un berger. Et il avait un cœur qui vibrait pour Dieu. Alléluia. Ça fait quand même plaisir de savoir que Adam et Ève ont été quand même un peu récupérés. Parce que il y avait chez Abel un cœur qui vibrait pour le Seigneur. Il avait offert un sacrifice à Dieu de ses troupeaux. Et il y avait cette offrande. Et son frère Caïn, par contre, eh bien lui, il avait un cœur qui était éteint. Cette flamme était éteinte. Il n'avait pas la communion avec Dieu. C'était pourtant son frère. Il avait eu la même possibilité. Mais il n'avait pas suivi le même chemin. C'est là qu'il y a une importance. Il faut suivre le bon chemin. Et voilà que Caïn a suivi le mauvais chemin. Il a même tué son frère. Et c'est terrible. On va passer plusieurs hommes de la parole de Dieu. Ça peut être intéressant. Enoch, par contre, dans l'Ancien Testament, toujours, ne s'est pas laissé éteindre. Non, Enoch marcha avec Dieu, combien ? 300 ans. Alors, je ne sais pas si vous allez marcher avec le Seigneur 300 ans. Je vous le souhaite, mais ce n'est pas sûr. Hein? Déjà, quand on arrive à 100 ans, c'est déjà un bel âge. Mais il y en a qui ont plus de 100 ans. On a entendu parler ce matin de ces chrétiens qui sont convertis depuis 80 ans. Ah, il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai. Mais c'est vrai que aussi le Seigneur reste avec nous jusqu'à la fin. Vous allez me dire, mais je sens mes forces diminuer, c'est vrai. Mais le Seigneur ne diminue pas, lui. Alléluia. Le Seigneur est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il nous accompagne, même si nous avons plus de 80 ans. Il nous accompagne. Il marcha avec Dieu 300 ans. Puis Dieu le prit. Ça, c'est merveilleux. Ah oui, partir auprès du Seigneur, déjà, comme cela, c'est extraordinaire. On demanderait tous à avoir ce départ pour aller dans l'éternité. Enoch marcha avec Dieu 300 ans, et ensuite Dieu le prit. Et cela arrive. Je me souviens d'un serviteur de Dieu aussi, il n'y a pas si longtemps, il y a à peu près un an et demi. Eh bien, il avait eu quelques problèmes de santé, mais ce n'était pas encore trop terrible. Et voilà que, eh bien, à un moment donné, il était en train de manger avec son épouse, et son épouse allait lui dire quelque chose, et puis tout cela, puis tout à coup, il était en train de manger, tout à coup, il s'est écroulé à table, il était auprès du Seigneur. Mais c'est terrible pour son épouse, mais elle a été bénie du Seigneur. Mais malgré tout, le Seigneur a béni cet homme qui servait le Seigneur jusqu'au bout. Il a béni et il l'a amené auprès de lui, comme s'il était là, choisi, et il l'a amené près de lui. Dieu le prit. Vous vous souvenez de Noé aussi. Noé a eu un cœur brûlant pour Dieu. Oh, il fallait le faire, hein, quand il a construit l'arche. Hein. L'arche, c'était pas un petit bateau, c'était un immense bateau. Et voilà qu'il était grand à peu près comme... l'arche était grande à peu près comme un immeuble de 4 étages. C'est pas mal, hein. Et en plus, grand comme un terrain de football. On va me dire, moi je ne connais pas les grandeurs, mais voyez un peu quand même la grandeur de ce bateau pour contenir déjà tous ces animaux et puis quelques personnes qu'il y avait. Et il a construit cette arche alors qu'il était dans le désert. Dans le désert, on va me dire, mais pauvre Noé, le soleil l'avait tellement frappé qu'il était devenu fou construire une arche dans le désert. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait plus rien. Et il y a même bien des pompiers dans ce monde qui ont cherché à éteindre le feu qui était en Noé. En Noé, il y avait un feu qui brûlait et il aimait son Seigneur. Et il a aimé jusqu'à la fin. À la tour de Babel, là c'est autre chose. Un feu étranger brûlait. Aïe, 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 là c'était pas du tout la même chose. Il y avait un feu étranger parmi le peuple. Et Dieu a dû jouer le trouble fête parce que tout allait de travers. Il n'y avait plus rien qui n'allait bien. Et il a dû confondre le langage. Imaginez-vous le langage qu'ils devaient avoir entre eux, la discussion qu'ils avaient entre eux. Tout à coup, il y en a un qui parlait italien, un autre qui parlait espagnol, un autre qui parlait patois, un autre qui parlait je ne sais quel patois de quel pays, mais c'était, ils ne se comprenaient plus et ils commençaient à, peut-être même à s'énerver entre eux en disant, mais écoute, je te parle. Eh bien oui, ils ont été ainsi troublés par Dieu parce que leur vie n'était pas en ordre non plus. Mais Dieu fait grâce encore et il fera grâce encore de nos jours. Abraham, lui, est parti de son pays pour aller dans le pays promis, selon qu'il est dit dans Hébreux 11, verset 8. Il est parti en ayant la foi que Dieu lui a communiquée. Il partait sans savoir où il allait. Vous allez me dire, mais quelle idée, Abraham, as-tu réfléchi, toi qui aimes peut-être les mathématiques? Eh bien, Abraham, tu n'as pas réfléchi. Et si, il a réfléchi. Et il a dit au Seigneur, maintenant je te fais confiance, je vais là où tu vas me montrer d'aller. Et je n'irai pas à côté, dans le champ à côté, mais j'irai à l'endroit où tu m'as appelé. Je veux y aller parce que je serai avec toi. Il a eu bien des promesses. Et nous, est-ce que nous n'avons pas eu bien des promesses? Ah oui, il y en a eu de nombreuses. Et Dieu veut nous accompagner aussi. Le feu a failli s'éteindre quand même avec Abraham. Quand il a eu son fils Isaac, c'était une bénédiction, c'est vrai. Il n'a pas su attendre encore la venue d'Isaac. Entre deux, il y a eu quelque chose. Il a eu son fils Ismaël, et cela n'a pas été une grande bénédiction pour lui. Il a cru que peut-être humainement il allait pouvoir faire quelque chose, mais il n'a pas su attendre. Mais Dieu a fait grâce encore. Il a su retrouver son feu brûlant ensuite. Alléluia. On le voit, par exemple, dans Genèse 18, verset 22. Lors de l'intercession en faveur de Sodome et Gomorre. Oh, ce n'était pas facile. Quelle foi il a eu, Abraham! Un homme de foi, un homme rempli par l'Esprit de Dieu. Eh oui, il a eu la foi pour la libération. Quelle persévérance! Il a fait 6 demandes à Dieu dans Genèse 18, 22. 6 demandes. Quand il a demandé pour son neveu Lot, les gens qui étaient dans les villes de Sodome et Gomorre, s'il y en avait peut-être 50, s'il y en avait 40, s'il y en avait 30, qui n'avaient pas encore plié les genoux devant les choses mauvaises. Et puis là, il est allé jusqu'à très peu de personnes, et il a fait ses 6 demandes quand même devant Dieu. Il a osé. Dieu nous demande d'avoir la foi, Dieu nous demande d'avoir ce regard tourné vers lui, et alors il y aura de grandes bénédictions pour nous. Son fils Isaac aussi a été béni. Dieu a demandé à Abraham le sacrifice de son fils Isaac. Isaac a été béni, mais Abraham aussi, parce que c'était tellement dur. Maintenant, offre-moi ton fils, celui que je t'ai donné, Isaac. Offre-le-moi, dans Genèse 22. Et l'obéissance est là, et on voit ces deux hommes, on pourrait dire, enfin, il était jeune, Isaac, mais il partait avec son père, Abraham, jusqu'au lieu du sacrifice. Et là, eh bien, il y a eu la grâce divine. Dieu fait grâce de nos jours aussi. Dieu fait grâce. Si nous sommes dans l'obéissance, il va nous bénir aussi. Alléluia. L'obéissance était là. Et pour Isaac ensuite, eh bien, il y a eu aussi Abraham qui a envoyé son serviteur pour qu'il cherche une épouse pour Isaac. Vous allez dire, ça c'est pratique, hein. Maintenant, eh bien, mon fils arrive à tel âge et je vais lui chercher une épouse. Est-ce que vous seriez d'accord? Peut-être pas, hein, que vos parents vous cherchent une épouse. Mais pour ces temps-là, c'était bien, c'était ce qu'il fallait faire aussi. Et il a voulu choisir vraiment le lieu dans le pays d'Abraham. Et le serviteur qui y est allé a eu un zèle ardent, c'est dans Genèse 24, un zèle ardent. Il a cherché cette future épouse, et il l'a trouvée. Qui cherche, trouve, dit la parole de Dieu aussi. Celui qui cherche, celui qui demande, eh bien, il reçoit. Alléluia. Et dans dans Genèse 25, verset 34, je veux parler d'Ésaü. Genèse 25, 34, il y a un homme, Ésaü, qui a laissé son feu s'éteindre. Eh oui, son feu s'est éteint pour un plat de lentilles. Vous aimez les lentilles? Quand on est enfant, on dit, oh là là, encore des lentilles. C'est pas amusant, des lentilles avec des saucisses ou autre chose. Eh bien, non, on n'aime pas trop les lentilles souvent. Maintenant, moi, je ne peux pas dire que je n'aime pas, mais il a laissé ce feu s'éteindre, Ésaü, parce qu'il aimait trop les lentilles. Eh bien, il a vendu son droit d'aînesse et il s'est laissé enlever la bénédiction d'Isaac. La fidélité doit primer dans nos vies et non pas ce qui nous passe par la tête. Tout à coup, j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire cela, et Seigneur, tu passes derrière, parce que maintenant, ce n'est pas toi qui vas commander, c'est moi qui vais commander. Et alors, on se trouve dans une impasse. Jacob, lui, n'a pas toujours utilisé les bons moyens pour arriver à ses fins. Et il a obtenu, par contre, malgré tout, la grâce de Dieu à cause de sa persévérance. Il était persévérant, Jacob. Il a aimé son Seigneur quand même. Il s'est emparé de la bénédiction et il avait la foi. Et la foi, le Seigneur nous la demande. On passe à son fils, Joseph, lui. Il a eu une vie fidèle, droite. Quand on voit Jacob qui était un trompeur, Joseph n'était pas un trompeur. Joseph était un homme droit, un homme fidèle. Alors, vous pouvez vous dire, j'ai toujours une chance, n'est-ce pas, si dans ma famille, il y a eu des tromperies, s'il y a eu des malversations, s'il y a eu des choses difficiles, que, eh bien, jamais je ne pourrais même réparer. Il y a la possibilité d'avoir une vie fidèle, d'avoir une vie droite, d'avoir une vie engagée pour le Seigneur. On peut être tout différent. Et Joseph a été ainsi. Il a eu plusieurs tentations de l'ennemi pour lui enlever tout courage. Cela nous est jamais arrivé d'avoir des tentations. Ça est arrivé à tous ceux qui sont sur la terre, même à Jésus, quand il était dans le désert. Il y a eu la tentation de l'ennemi. C'était des choses horribles que l'ennemi lui proposait. Et il a été tenté comme nous le sommes. Et voilà que il aurait pu perdre tout courage, Joseph, quand dans Genèse 37, verset 20, il se trouve dans la citerne. Imaginez-vous, vos frères que vous aimez vous mettent dans une citerne et vous disent « Bye bye, au revoir, on s'en va, et toi tu resteras dans la citerne. » C'est terrible quand on y pense, dans la citerne, maintenant tu es oublié de tous. Et cela peut nous arriver à nous aussi d'être oubliés de tous. Mais le Seigneur ne nous oubliera jamais. Alléluia. Et il a été vendu ensuite aux Ismaélites. Il y en a un qui a quand même eu un peu pitié de lui et qui a dit, bien, ce serait mieux de le vendre aux Ismaélites. Et dans Genèse 39, 7 à 20, on voit ensuite, il est conduit en prison. Pauvre Joseph, vraiment, il n'a pas de chance. Joseph, toi qui aimes tant ce Seigneur, toi qui veux servir le Seigneur, qui veux l'honorer, tu es conduit jusqu'en prison, pas pour différentes choses. Tu te trouves là, et même la femme de Potiphar, qui vient le trouver dans Genèse 39, 7 à 20, il y a cette trahison. Là, dans la prison, il est trahi par la femme de Potiphar, qui lui dit, mais tu as voulu coucher avec moi, tu as voulu faire ceci, tu as voulu faire cela, et maintenant, tu vois, j'ai ton manteau, là, comme preuve, le manteau, alors qu'elle lui avait arraché le manteau, au fond, elle avait pris son manteau pour faire croire qu'il avait eu de mauvaises intentions. Joseph, en prison, il est trahi, il a été oublié en plus par le chef des échansons. Oh, chef des échansons, il a été béni et il a dit, Alléluia, tout va bien, tout va bien, au revoir tout le monde. Je penserai à toi, Joseph, je penserai à toi. Tu es en prison, mais je ne t'oublierai pas. Et il a oublié son ami Joseph en prison. Mais la victoire était de son côté à Joseph, parce qu'il aimait Dieu. Il a conservé même le feu du premier amour pour ses frères. Alors ça, il faut le faire. Hein. Ses frères ne l'aimaient pas tellement, hein, Joseph. Il disait, t'es mon frère, oui, t'es mon frère, c'est vrai. Mais tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as dit des choses qui nous déplaisent. Et Joseph, tu n'es pas à être considéré comme un de nos frères même. Nous voulons plus de toi. Et voilà que Joseph est devenu le premier ministre en Égypte. Ah, Joseph, quand on parlait de Joseph, c'était un homme important. C'était le le plus important de l'Égypte même. Et il ne s'est pas vengé de ses frères. Quand ses frères sont venus en Égypte aussi, ils étaient obligés de venir en Égypte chercher de la nourriture. Il ne s'est pas vengé. Il les a éprouvés, c'est vrai. Il les a laissés un moment attendre ceci, attendre cela. Il les a éprouvés, mais il ne les a pas condamnés. Il a manifesté vraiment le pardon envers ses frères. Et oui, Joseph a ranimé même le feu de son père Jacob. Ça, c'est beau. Si vous avez des gens dans votre famille qui ont peut-être un peu une vie morose ou qui ont une vie d'abandon du Seigneur un peu, eh bien, vous pouvez aussi leur amener la parole de Dieu. Une parole qui vient leur faire du bien, qui vient leur rappeler que Jésus ne les oublie pas, que Jésus veut les aider dans leur détresse. Alors, en mettant un peu du vôtre aussi, bien sûr. Joseph a même ranimé donc le feu de son père Jacob, qui avait perdu tout espoir de le revoir. Il s'était dit, Joseph, il est mort, j'ai la preuve qu'il est mort. Ses frères ont amené tout ce qu'il fallait pour prouver qu'il était mort. Il ne pensait même presque plus à Joseph, sauf avec douleur. Ah oui, Jacob avait perdu tout espoir de le revoir. Et là, il va revoir son fils. Jacob va le revoir, sachant ranimer les esprits abattus, sachant ranimer ceux qui ont eu de cruelles épreuves. C'est parfois difficile, la vie. Il y a des moments où on passe par des temps où c'est le creux de la vague. Ce n'est pas le sommet de la vague, mais c'est le creux. Et on se dit, bientôt, la vague va tomber et ça sera encore sur moi. Et oui, il y a des moments difficiles, une perte cruelle, des personnes qui ont eu des moments bien pénibles. Moïse, lui, était animé de bonnes intentions. Je pense que vous en avez aussi ce matin, de bonnes intentions. Et nous en avons tous, alléluia. Mais cela ne suffit pas. Il a utilisé ses propres pensées pour tenter de sauver Israël. Et il s'est dit, maintenant, eh bien, puisque je suis choisi par Dieu, eh bien, maintenant, je vais essayer de sauver le peuple d'Israël. Et il a tué un Égyptien. Échec. Et là, c'est vraiment la catastrophe pour Moïse, pour tenter de sauver son peuple. Et le feu ne va pas se rallumer tout de suite après qu'il a tué l'Égyptien. Il a dû partir. Et pendant 40 ans, il n'y a eu aucune voix, aucun signe de Dieu, apparemment. Aucun signe de Dieu vraiment, mais il y avait quand même des petits attouchements divins quelque part, mais il semble qu'il n'y avait pas grand chose. Et 40 ans après, le Seigneur envoie un réveil, alléluia. Et nous croyons que Dieu est capable d'envoyer des réveils de nos jours aussi, capable de réveiller certaines choses en nous déjà et aussi autour de nous. Dans la prière, le Seigneur répond, alléluia. Il y a eu, pour le réveil du pays de Galles, des choses extraordinaires, quand le Seigneur avait réservé quelques personnes qui priaient, elles n'étaient pas nombreuses, quelques personnes qui priaient et qui demandaient à Dieu une bénédiction pour le peuple, pour les chrétiens. Et elle est descendue, alléluia. Que de choses bénies. Il a fallu que Dieu insiste pour Moïse en prouvant qu'il agirait lui-même. Et il a fallu des preuves, tout cela. Pharaon, Israël ont voulu éteindre ce feu déjà en Égypte. Pharaon en premier, bien sûr, mais Israël aussi dans le désert. Et même déjà en Israël, on disait, mais Moïse, qu'est-ce que tu viens faire? Chaque fois que tu vas trouver Pharaon, c'est là qu'il y a des punitions qui tombent et on doit aller chercher beaucoup de choses alors qu'autrefois ça nous était presque à portée. Ah non, c'était vraiment le moment difficile pour Moïse aussi. Et ensuite au désert, eh bien Moïse recherchait Dieu et il nous donne cet exemple aussi que pour que nous soyons nous aussi de ceux qui cherchent Dieu même dans le désert. Vous allez me dire dans le désert, comment je peux trouver Dieu? Eh bien oui, il est présent même dans le désert. Mais Moïse recherchait Dieu, il se rechargeait auprès de lui. Vous savez, quand on a de nos jours des piles rechargeables, moi j'utilise pas beaucoup, mais il y en a qui utilisent souvent, ça fait du bien de recharger, de pouvoir brancher à l'électricité, et après avoir un appareil qui fonctionne bien. Ah oui, on est rechargé. Vous savez, nous aussi, quand nous venons auprès du Seigneur, eh bien nous pouvons être rechargés. Alléluia. Non pas chargé des fardeaux, non, non. Rechargé dans notre être intérieur. Quelque chose qui vient et qui nous stimule. Ah oui, de nos jours, il y a beaucoup de gens qui nous parlent de ça. Il faut être stimulé. Il faut être... Et oui, il faut tout cela. Mais il faut être surtout rechargé par Dieu lui-même. Parce que les hommes ne nous offrent pas grand-chose. Jésus, lui... Désirez la victoire pour le pays promis. Et je suis sûr que vous la désirez ce matin, la victoire pour le pays promis. Il savait qu'il y avait des géants. Ben oui, il y a des géants. Josué le savait, il les avait vus. Et il savait qu'il y avait des Jéricho. Il avait vu Jéricho. Tout cela. Mais il croyait surtout en un Dieu qui est tout puissant, un Dieu qui est vivant, qui ne reste pas dans un coin en disant « voyons s'ils vont gagner ». Non, Josué était un participant. Il y allait de tout son cœur, de toute son âme. Et Jéricho, tout cela, ça ne lui faisait pas peur. Il croyait dans un Dieu fort. Et il y a eu un moment à la défaite de Haï. Vous vous souvenez cette histoire? Alors que Israël avait péché, eh bien à Haï, il y a eu une défaite. Juste après Jéricho, son courage a lâché à ce moment-là. Il dit non Seigneur, c'est vraiment catastrophique. Je croyais avoir la victoire tout le temps. Maintenant, Jéricho est tombé et voilà qu'il y a Haï et là le peuple d'Israël tombe. Les enfants d'Israël meurent. Non, ce n'est pas bien. Et il baissait les bras. Et il accusait presque Dieu, mais pas tout à fait. Il avait vraiment un cœur triste. Dieu l'a aidé et lui a donné de relever la tête et de continuer et d'avoir de nouvelles victoires. Alléluia. Les Gabaonites aussi auraient pu le décourager dans Josué 9, quand ils se sont présentés en voulant la paix. Ah, la paix, c'est formidable la paix. Alors on va faire la paix avec n'importe quoi. On va dire que le pain qu'on a dans notre sac, eh bien, ça fait beaucoup de temps qu'il y est, c'est pour cela qu'il est sec, alors que c'était du pain sec qu'ils avaient pris. Tout cela, c'était du mensonge chez les Gabaonites. Et il aurait pu se décourager, Josué, mais il va dire non. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Souvenons-nous de Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, pas simplement moi, ma maison aussi. Et oui, nous avons besoin de prier pour nos frères et sœurs aussi, dans notre maison. Gédéon, lui, n'avait pas le feu. Ah, ça arrive. C'est Dieu qui va le lui communiquer dans Juges chapitre 6, verset 12. Dieu va lui dire, vaillant héros. On est comme si Dieu venait ce matin vers vous et vous dise, vaillant héros, tu es choisi pour une tâche. Mais quelle tâche? Je ne suis pas un vaillant héros, je suis plutôt un vaillant zéro. Hein? Quelqu'un qui ne fait pas grand-chose. Lui, c'est un grand timide, Gédéon, et il est encouragé par Dieu. Vous savez, on peut être timide et peut être encouragé aussi par le Seigneur, hein? Moi, j'étais très timide avant, je suis encore un peu, mais c'est vrai que en l'encouragement de Dieu, quand le Saint-Esprit descend sur vous, alors vous pouvez y aller franchement. C'est là le chemin de Dieu. La timidité et le doute auraient pu éteindre ce feu chez Gédéon, mais Dieu va l'encourager d'une façon merveilleuse. Alors, j'envoie encore deux, trois avec vous. Samson était animé aussi d'un formidable zèle pour son pays. Jusqu'au jour où il a cédé son secret à Delila dans Juges chapitre 16. Sachons garder ce que Dieu nous a donné et le faire valoir. Si Dieu nous a donné un talent, eh bien, gardons-le, faisons-le valoir, c'est pour la gloire de Dieu. Ne dilapidons pas le trésor divin non plus. Ce que Dieu nous a donné, c'est pour nous, mais aussi pour les autres. Ne jetons pas nos perles non plus au pourceau. C'est vrai qu'il y a des gens qui vont distribuer des choses qui ne sont pas à distribuer. Et dans Ruth, il y a aussi une bénédiction. Elle s'est accrochée à la bénédiction de Dieu. Ah oui. Par contre, Orpa, eh bien, elle a dit à sa belle-mère, eh bien, sois bénie de l'Éternel, mais maintenant je vais suivre mes dieux, moi. C'est à peu près ça, au fond. Orpa n'a pas su tenir et Ruth s'est accrochée à la bénédiction. Dès son départ du pays de Moab, elle a commencé à s'attacher à Dieu. Et à Bethléem, ça a continué, fidèle jusqu'au bout. Ruth était fidèle. Elle est restée dans le champ où elle était allée. Et c'est sur le conseil de sa belle-maman. Saül, par contre, n'a connu qu'un feu de paille. Pauvre Saül, on est en train de lire dans notre lecture quotidienne l'histoire de Saül. C'est terrible quand on voit cet homme qui était choisi de Dieu, qui même a été cherché par Dieu derrière les bagages. Il était timide lui aussi, mais il n'a pas su garder le feu que Dieu lui avait donné au départ. Il s'est vite consumé ce feu. Il n'a pas livré toute sa vie à Dieu. Et c'est pour cela que David est arrivé. Et David a été choisi de Dieu aussi. Mais pour Saül, ça a été dur parce que il a vu que David avait la bénédiction de Dieu. Il a bien vu tout cela. Quant à il y a eu David et Goliath, tout cela, il a vu qu'il était choisi de Dieu. Comment un homme, un jeune homme qui a juste un lance-pierre peut abattre un géant comme Goliath, ce n'est pas possible. Et si c'est possible, il était choisi. Goliath, au début, donc, a été abattu. Mais aussi, il y a eu une chute magistrale chez David après, avec Bathsheba. Cet homme était droit devant Dieu, David, et il connaissait la repentance. Est-ce que nous connaissons aussi la repentance ? Quand nous avons péché, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-nous. Nous avons besoin de toi. Nous voulons nous repentir, nous placer devant toi. Seigneur, aide-moi parce que je n'y arrive plus. Alors, Seigneur, viens. Alors, je ne vais pas vous faire toute la parole de Dieu. Il y en a déjà pas mal. Il y a Salomon qui a été l'infidèle. Élie, le prophète, qui a été un homme de Dieu formidable aussi. Mais il a connu aussi un moment de faiblesse avec Jézabel, vous vous souvenez? Après la victoire sur les faux prophètes, il y a eu Jézabel. Vous allez me dire, mais quand même, Jézabel, ce n'était pas la puissance du malin à fond. Bien sûr, elle était dans le péché, dans des choses horribles, mais ce n'était pas l'ennemi lui-même qui se présentait. Jézabel l'a fait tomber à ce moment-là, mais il s'est relevé. Élisée a été le fidèle, il a continué la route. Esdras, Néhémie, Esther, Daniel, quand on lit le livre de Daniel, relisez le livre de Daniel, ça fait tellement du bien. Quand on voit ces hommes qui ont été libérés de la fournaise ardente, Daniel qui a été béni, ô combien de fois, et dans la fosse aux lions. Et alors je termine avec ce verset que nous pouvons garder avec nous. Considérez en effet, dans Hébreux chapitre 12, verset 3, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Il faut regarder vers Jésus. Et c'est lui qui va nous exhorter et qui va nous bénir. Alors, sachons garder le feu et continuer notre route avec le feu, parce qu'il fait froid l'hiver. Nous avons tous besoin du feu de Dieu. Nous sommes dans un hiver de ce monde. Le feu de Dieu doit brûler quand vous arrivez dans votre maison et qui a été peut-être laissée de côté pendant 3 semaines ou 1 mois. Il fait froid et vous avez besoin de faire du feu. Que le Seigneur nous bénisse et que le feu se rallume. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons parce que tu as donné à chacun d'entre nous cette possibilité de nous approcher de toi à tout moment. Seigneur, nous ne sommes pas seuls, tu es présent et tu es présent à tout moment de notre vie. Quand nous sommes vraiment par terre, quand nous ne pouvons plus lever la tête, quand nous sommes effrayés devant les attaques de l'ennemi, nous crions vers toi, Seigneur, et nous te disons merci d'avance, parce que Jésus, tu es celui qui vient prendre notre main dans la tienne, tu la tiens et tu nous soulèves un peu plus haut, afin que nous montions en ta présence sainte. Ô Jésus, merci, parce que tu es ce Dieu merveilleux qui veut sauver celui qui est au bord de la route, celui qui n'en peut plus. Et tu bénis ce matin chacun de mes frères et sœurs. Nous te louons, Seigneur, parce que tu les encourages et tu bénis cette assemblée. Merci, Seigneur Jésus. Amen.